Voyageons vers un trou noir. On est en l'an 2586. Notre fusée décolle et des êtres humains se dirigent vers le plus gros trou noir de notre galaxie. Sagittarius A. Le voyage va durer 20 ans pour les gens se trouvant dans le vaisseau. Mais ceux qui sont restés sur Terre, ça sera l'équivalent de 26 000 ans. Qu'est-ce que les êtres humains du futur verraient de ce trou noir? Qu'est-ce qu'ils ressentiraient en entrant dans ce trou noir supermassif? Partons à la rencontre du plus gros trou noir de notre galaxie, à 26 000 années-lumière d'ici. Le trou noir Sagittarius A star. On parle beaucoup des trous noirs en général. Ce sont les régions qui regorgent le plus de mystères de tout l'univers. On ne connaît que très peu de choses sur eux, mais pourtant, elles bouleversent notre compréhension de l'univers et l'espace qui nous entoure. Les comprendre nous permettrait d'en savoir plus sur les débuts de notre univers, là où tout a commencé. Juste, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Déjà, merci énormément à ceux qui likeront cette vidéo. Également, j'aimerais faire appel à toute ma communauté qui est en train de regarder cette vidéo actuellement. Tous ceux qui me suivent et tous ceux qui font partie de la communauté silencieuse. Sachez que des projets de très grosse envergure arrivent d'ici quelques semaines. Donc je vous conseille de rester actif courant février et mars. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les concepts et les formats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Les trous noirs sont des objets astrophysiques qui ont longtemps été hypothétiques. Le physicien John Mitchell imaginait déjà l'idée des trous noirs. L'idée principale de Mitchell était basée sur la gravité et la vitesse de libération. La vitesse de libération, ça correspond à la vitesse nécessaire à laquelle il faut envoyer un objet pour qu'il puisse quitter l'attraction gravitationnelle d'un astre dans lequel il est. Par exemple, la vitesse de libération de la Terre, elle est de 11 km par seconde. Ce qui signifie que si je lance un objet à plus de 11 km par seconde en l'air, il quittera la Terre et ne retombera jamais. Mitchell envisageait des étoiles si massives que leur gravité serait si forte que même la lumière ne pourrait s'échapper de leur surface. Et donc, il a proposé l'expérience de pensée suivante. Supposons qu'il existe une étoile dont la masse était la même que notre Soleil. Et supposons qu'une telle étoile soit 500 fois plus petite que notre Soleil. Donc en gros le Soleil, mais en 500 fois plus petit. Dans ce cas, la densité serait plus forte, la gravité serait également plus forte, et la lumière n'irait pas assez vite pour échapper à cette attraction gravitationnelle. Ce constat est partagé par le célèbre mathématicien et physicien français Laplace, quelques années plus tard, en les nommant astres obscurs. Mais tout prend réellement vie à partir de 1915, au moment où Albert Einstein dévoile la relativité générale, une nouvelle formulation géométrique de la gravité basée sur la courbure de l'espace-temps, en présence de masse et d'énergie. Pour ceux qui veulent plus de détails sur l'espace-temps, j'ai fait une vidéo où j'en parle plus en détail. En 1916, Karl Schwarzschild, en utilisant les équations de la relativité générale, trouve quelque chose d'assez étrange. Il découvre dans ses équations une solution qui décrit un objet compact et très massif, un peu comme ce qu'on appelait autrefois des astres obscurs. C'est donc entre 1930 et 1940 que l'idée de trou noir commence à émerger. Et ce, grâce aux travaux influents de Snyder et d'Oppenheimer. Il suggère que les étoiles très massives pourraient s'effondrer gravitationnellement pour former des objets compacts. Mais c'est seulement au cours des années 1960 que l'idée de trou noir prend vraiment son envol. Roger Penrose et Stephen Hawking démontrent mathématiquement l'existence de singularités au sein des trous noirs. Tandis que l'horizon des événements, donc la limite infranchissable délimitée par la gravité, apparaît en 1967. C'était lors d'une conférence à New York que le physicien John Wheeler introduit le terme trou noir, popularisant ainsi cette idée auprès du grand public et de la communauté scientifique. Mais vous inquiétez pas, notre voyage va bientôt commencer. La décennie suivante, en 1970, est marquée par des avancées majeures. Stephen Hawking formule la théorie de la radiation des trous noirs, montrant que eux aussi peuvent émettre un rayonnement thermique. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils meurent. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. À l'heure actuelle, l'existence des trous noirs est soutenue par des preuves observationnelles qui sont de plus en plus solides. Par exemple, quand on observe des objets compacts dans des systèmes binaires, donc des systèmes où deux objets très denses se tournent l'un autour de l'autre. Ça peut être deux étoiles à neutrons qui se tournent l'un autour de l'autre, ou alors même des trous noirs. Et cette rotation qu'ils ont l'un autour de l'autre va créer des ondes gravitationnelles que nous, on peut détecter depuis la Terre, grâce aux interféromètres LIGO et Virgo. Et donc, c'est pour mieux les comprendre qu'on va faire notre voyage. Sauf qu'on parle des trous noirs depuis le début, sans vraiment définir ce que c'est. Rigoureusement, un trou noir est une région de l'espace-temps, où la gravité est si intense que rien, même la lumière, ne peut échapper à son attraction. On définit usuellement un trou noir comme un astre, mais c'est une idée reçue qui est fausse et bien ancrée. Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps, c'est pas un astre. Cette caractéristique découle de la courbure extrême de l'espace-temps, provoquée par une concentration de masse infiniment dense, en un point central, qu'on appelle singularité. Donc en gros, c'est la concentration de matière avec une masse dans un espace infiniment restreint, en un point. Ça provoque une courbure de l'espace-temps et crée cette fameuse singularité, ce fameux trou noir de l'espace-temps. Bien qu'il existe plusieurs types de trous noirs, les trous noirs sont généralement formés à la suite d'effondrements gravitationnels d'une étoile massive. Et avant qu'on voyage en direction de ces trous noirs, il faut comprendre leur structure. D'abord, il y a l'horizon des événements. C'est une frontière sphérique qui délimite la région à partir de laquelle aucune information, ni matière, ne peut s'échapper. À savoir, l'horizon des événements, c'est pas une frontière matérielle, c'est pas une frontière solide. C'est plutôt une frontière conceptuelle qui délimite la zone de non-retour gravitationnel. Donc tu franchis cette limite, tu resteras jamais attiré par le trou noir, sans pouvoir en sortir. On peut voir ça comme la limite entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir. À l'intérieur de l'horizon, la trajectoire de tout objet est inexorablement dirigée vers la singularité, donc dans le centre même du trou noir. Il existe plusieurs types de trous noirs, dont deux qui sont, on va dire, les principaux. On a d'abord les trous noirs stellaires, et c'est eux qui se forment à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive. La gravité l'emporte sur la pression radiative de l'étoile mourante, et le cœur se densifie en se contractant sur lui-même. Une onde de choc se propage alors du noyau jusqu'aux couches extérieures, et l'étoile entre en phase de supernova. Si la masse restante est importante, l'effondrement gravitationnel qui s'ensuit peut créer un trou noir stellaire. Et la deuxième catégorie, ce sont les trous noirs supermassifs, ou alors les trous noirs galactiques, c'est la même chose. Les trous noirs supermassifs occupent le cœur de nombreuses galaxies, si ce n'est toutes. À vrai dire, en fait, la question est encore ouverte. On ne sait pas s'il y a un trou noir supermassif au centre de toutes les galaxies. Mais pour le moment, on en détecte dans toutes les galaxies étudiées, y compris dans notre propre galaxie, la Voie lactée, qu'on appelle Sagittarius A-étoile. Leur formation reste encore inconnue, mais c'est un sujet de recherche encore actuel. Une hypothèse suggère que ces trous noirs se forment à partir de la croissance progressive de trous noirs stellaires et de la fusion d'autres trous noirs. Donc en gros, c'est un peu comme Agario. Les trous noirs grandissent avec d'autres trous noirs qui se fusionnent entre eux. Une autre hypothèse suggère l'effondrement d'une grande quantité de gaz au début de la formation d'une galaxie. Ces régions peuvent donc faire des millions, voire même des milliards, de fois la masse du Soleil. Ce qu'on sait, c'est que les trous noirs supermassifs sont presque aussi vieux que l'âge de l'univers, donc 13,8 milliards d'années. Ils se sont donc formés très tôt, mais impossible de savoir s'ils étaient petits à leur naissance. Avant de décoller vers Sagittarius A-étoile, il faut qu'on voit d'autres effets intéressants. On a déjà parlé précédemment de quoi est composé un trou noir, à savoir l'horizon des événements et une singularité centrale. Et ça, c'est valable pour les trous noirs de Schwarzschild, donc les trous noirs qui ne tournent pas ou très peu vite sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, il existe plusieurs types, entre guillemets, de modèles de trous noirs, mais là, on va s'intéresser qu'aux trous noirs de Schwarzschild, donc les trous noirs qui ne tournent pas sur eux-mêmes. L'espace-temps, concept fondamental de la relativité générale, fournit le cadre dans lequel se déroulent les interactions gravitationnelles massives. L'espace-temps autour d'un trou noir est courbé de manière extraordinaire, créant une courbure gravitationnelle qui défie notre compréhension intuitive de la réalité. C'est pour ça que les trous noirs sont fascinants. Et la matière à proximité du trou noir va être soumise à des trajectoires complexes, formant un disque de matière qui tourne autour du trou noir, qu'on appelle le disque d'accrétion. Et où se trouvent tous ces trous noirs ? Eh bien en fait, ils sont dispersés un peu partout. Les trous noirs stellaires se situent un peu partout dans les galaxies, même dans notre galaxie, et les trous noirs supermassifs au cœur même des galaxies. Dans une galaxie, des trous noirs peuvent être trouvés dans des amas stellaires, des régions où les étoiles sont regroupées. Des observations astronomiques, notamment avec des télescopes spatiaux comme le télescope spatial Hubble, ont permis de détecter des signes indirects de la présence de trous noirs. Par exemple, on a détecté des jets de matière émis par des trous noirs actifs. Des observations approfondies ont identifié des trous noirs supermassifs dans d'autres galaxies, à des distances cosmologiques considérables, de l'ordre du milliard d'années-lumière. Bon, finalement, je pense que vous êtes fin prêt pour le grand voyage. On va partir en direction du plus gros trou noir de notre galaxie, le trou noir supermassif Sagittarius A-étoile. On va parcourir 26 000 années-lumière pendant notre voyage. Sagittarius A-étoile est un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Sa découverte et son étude ont été le fruit de nombreuses observations astronomiques et de recherches. La première mention significative de l'existence d'un objet massif au centre de notre galaxie remonte aux travaux du radioastronome américain Karl Jansky dans les années 1930. Mais c'est qu'au cours des dernières décennies que des instruments plus avancés ont permis d'en apprendre encore plus sur le trou noir Sagittarius A-étoile. Et pour ça, on l'a observé en rayons X, en ondes radio, ou encore en observant son environnement et en détectant son influence gravitationnelle. Et en ce qui concerne sa masse, elle est estimée à environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Cette masse considérable en fait un trou noir supermassif. Et bien que cette valeur soit relativement petite par rapport à d'autres trous noirs supermassifs dans l'univers, elle est significative pour notre galaxie. Le rayon du trou noir, donc entre son centre et l'horizon des événements, sa frontière, est environ de 18 fois le rayon du Soleil. Donc en gros, entre le centre du trou noir et sa frontière extérieure, on pourrait placer 9 fois le Soleil. Ça paraît gros comme ça, mais en vrai c'est relativement petit quand on le compare à d'autres trous noirs supermassifs de notre univers. Sagittarius A-étoile a un disque d'accrétion comme tous les trous noirs qu'on observe. Mais, contrairement à ce qu'on pense, on ne le verrait pas comme étant jaune ou rouge. En fait, vu qu'il est très chaud, de l'ordre du million de degrés Celsius, la couleur du disque serait bleue. Exactement comme les étoiles, plus c'est chaud, plus c'est bleu. On suppose maintenant qu'on célèbre l'an 2584. L'humanité a réussi à exploiter l'énergie du Soleil pour parvenir à ses fins et celle de l'antimatière. Un groupe de scientifiques embarque à bord du vaisseau spatial lors de la mission Black Hole Explorer pour entreprendre un voyage vers le trou noir supermassif Sagittarius A-étoile au cœur de la Voie lactée. Ce projet interstellaire est né à partir de siècles et de siècles de recherche et de progrès scientifiques et technologiques. Il incarne l'aboutissement du rêve humain dans l'exploration spatiale. Le vaisseau Black Hole Explorer Ship propulsée par des technologies avancées alimentées par l'énergie solaire et l'antimatière, permet de rejoindre le centre de la Voie lactée en accélérant la première moitié du parcours, puis en décélérant la deuxième moitié. Du point de vue des habitants de la Terre, le vaisseau mettrait plus de 26 600 ans avant d'arriver au trou noir. Mais du point de vue des occupants du vaisseau, il ne mettrait que 19,8 ans. Et ça, c'est à cause de la dilatation temporelle en mouvement accéléré. Malheureusement, pour tous les occupants de la Terre, c'est un voyage sans retour. Une fois arrivé vers le trou noir, le vaisseau se place à environ une dizaine de rayons de Schwarzschild. Je vous ai dit tout à l'heure que la distance entre le centre du trou noir et la limite du trou noir était de 9 soleils, donc 18 fois le rayon du soleil. Ça, c'est le rayon de Schwarzschild, et donc ça correspond à près de 12 millions de kilomètres. Étant donné qu'on est à 10 rayons de Schwarzschild, donc 10 fois le rayon de Schwarzschild, on est là à 120 millions de kilomètres. Notre chute vers le trou noir, dans lequel on s'approche petit à petit, va durer plus d'une heure. Mais il y a un problème qu'on ne prendra pas en compte pendant notre chute libre. Sagittarius A est pourvu d'un disque d'accrétion de plusieurs millions voire milliards de degrés. On choisit alors, pour les besoins de la vidéo, de ne pas le prendre en compte et de faire en sorte qu'on pourra le traverser sans problème. Évidemment, dans la vraie vie, c'est pas le cas. On va considérer deux personnes différentes. Une observatrice qu'on va appeler Amelia Brand, qui se trouve dans le vaisseau qui reste éloigné du trou noir. Et c'est Cooper, le plus courageux, qui va se diriger vers le trou noir. Ces deux observateurs sont chacun équipés d'une horloge. Cooper se détache du vaisseau principal et commence à entamer sa route vers le trou noir. Il accélère de plus en plus en sa direction. De son côté, Amelia ne ressent rien. Elle reste toujours en apesanteur. La première chose visuelle qu'on va remarquer, c'est qu'une partie du disque d'accrétion est plus lumineuse que l'autre partie. Et ça, c'est dû à l'effet Doppler relativiste. En fait, lorsque le disque du trou noir, donc le disque de matière, tourne autour du trou noir à des vitesses fulgurantes. Donc une partie de la matière s'approche de lui, tandis que l'autre partie s'éloigne. C'est pour ça qu'il y aura une partie très lumineuse, et l'autre partie beaucoup moins. À cause de l'immense gravité du trou noir, on observe que le disque d'accrétion est dévié de telle sorte que l'arrière est visible même à l'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Donc on voit ce qu'il y a derrière le trou noir, alors que le trou noir est censé nous le cacher. Cooper se rapproche encore et encore, et finit par traverser le disque de matière. Et là, une sensation visuelle étrange se fait ressentir. On a paradoxalement l'impression que le trou noir s'éloigne de nous. Sa taille diminue et notre champ de vision devient de plus en plus petit. C'est dû à un phénomène d'aberration lumineuse, qui est purement optique, puisqu'en réalité, Cooper s'approche bel et bien du trou noir. À cause de ce phénomène, la direction apparente d'une source lumineuse dépend de la vitesse de celui qui l'observe. Donc en gros, plus Cooper se rapproche vite du trou noir et va vite, plus le trou noir lui paraît s'éloigner. Après quelques minutes, Amelia Brand regarde dans son hublot. Et surprise, elle voit que le vaisseau de Cooper paraît au loin de plus en plus sombre et de plus en plus rouge. Cooper, depuis son hublot, regarde aussi le vaisseau d'Amelia Brand et il voit qu'elle devient elle aussi de plus en plus rouge. C'est encore une fois l'effet Doppler qui rentre en jeu. Ils s'éloignent très rapidement l'un de l'autre, donc la lumière se décale vers le rouge. Les effets de dilatation du temps se font enfin ressentir. Cooper, quand il regarde son horloge, tout lui paraît normal. Et Amelia, pareil, tout lui paraît normal. Mais en réalité, l'écoulement du temps de Cooper est en train de ralentir par rapport à celui d'Amelia. De son point de vue, Cooper a l'impression que le temps d'Amelia s'accélère. Ce n'est pas une impression, c'est la dilatation du temps. Ce phénomène s'intensifie de plus en plus à mesure que Cooper s'approche du trou noir. À ce moment-là, il a enfin fini de traverser le disque d'accrétion et se trouve dans l'ombre du trou noir. On est maintenant à une distance de 3 fois le rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire 3 fois 12 millions de kilomètres, donc 36 millions de kilomètres. Amelia voit toujours Cooper au loin, qui devient de plus en plus rouge et de plus en plus flou. Pour elle, l'image de Cooper restera bloquée à tout jamais, à la surface du trou noir. Et enfin, la traversée de l'horizon peut commencer pour Cooper. Et à ce moment-là, contrairement à ce qu'on peut croire, Cooper ne va pas mourir. En fait, on peut entrer dans un trou noir supermassif sans problème. Tout dépend de sa masse et principalement de ses effets de marée. L'effet de marée d'un trou noir est à l'origine du futur destin tragique d'écartèlement. Et Cooper va bien le subir, mais beaucoup plus tard. Puisqu'en fait, cet effet de marée se fait ressentir au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du trou noir, pas du trou noir en lui-même. Et donc, plus un trou noir est massif, plus sa taille est grande, et plus il faut du temps pour atteindre le centre du trou noir. C'est là qu'on voit que les trous noirs stellaires, donc qui sont les plus petits, eh bien sont bien plus dangereux, puisque avant même d'atteindre le trou noir, on subirait ces effets de marée. Pendant quelques secondes, Cooper va inexorablement chuter vers le centre du trou noir. Il ne pourra plus faire marche arrière et sera contraint de tomber dans le trou noir. Amelia Brand voit toujours Cooper alors qu'il est entré dans le trou noir, mais elle le voit que à la surface du trou noir. Pour Cooper, il ne voit plus rien. À vrai dire, il ne sait même pas qu'il a franchi l'horizon des événements. Son horloge, par rapport à Amelia, commence à presque même s'arrêter. Le temps est en train de s'arrêter pour Cooper, mais il ne le sait même pas. Plusieurs semaines, plusieurs mois s'écoulent pour Amelia, et elle le voit toujours à la surface du trou noir, que Cooper vit comme quelques secondes. 64 secondes après la traversée de l'horizon des événements, Cooper sent en l'espace d'une fraction de seconde une force dévastatrice le déchirer. C'est la spaghettification. Cooper est donc mort, et il sera mort avant même d'atteindre le centre du trou noir. S'il l'avait atteint, peut-être qu'il se serait fait emporter dans une autre région de l'univers, si on admet les trous de verre. Ou alors dans un autre univers, si on admet le multivers. Mais ça, à vrai dire, on ne sait pas. et on ne le saura peut-être jamais. Parce que le centre des trous noirs n'est pas atteignable. Ou alors, faudrait résister aux forces de marée. Amelia verra jusqu'à sa mort Cooper au centre du trou noir, qui ne s'effacera jamais. Ce voyage magnifique et tragique est maintenant fini. Et si vous voulez savoir comment les trous noirs meurent, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. C'était Zabrolos. Bye.